Alors, nous sommes de retour avec Jean-François Gay. C'est la chronique Prendre la route. Alors, Jean-François, avant la pause, on parlait de la nouvelle BMW série 8 et on a parlé, tu nous as parlé également de la BMW série 4. Alors, si on regarde la série 8, par exemple, on s'entend qu'au niveau de l'échelle de prix, c'est pas donné. C'est 124 000 $ et ça peut monter jusqu'à 131 000. Et la BMW série 4, ben, si on regarde l'échelle de prix, c'est un peu plus raisonnable, mais encore là, ce n'est pas donné. De 53 000 à 88 000. Mais il y a quand même une différence. Ça peut aller jusqu'à 50 000, 60 000 $ de différence entre les deux véhicules. Alors, la question que je voulais te poser, puis ça, je t'ai demandé si tu avais essayé les deux véhicules dans la même semaine ou enfin, de façon assez rapprochée. Quand on fait des tests ou on conduit ce genre de véhicule, est-ce qu'on voit vraiment la différence entre les deux?
Ah ben, je te dirais que oui, hein, parce que la série 8, on s'entend que c'est une voiture qui est plus grande, plus lourde, qui est moins sportive, mais qui est plus luxueuse, qui est plus, tu sais, c'est plus vaste à l'intérieur. Dans le cas de la série 4, moi, je te dirais, c'est une pure BMW au niveau de la conduite, au niveau aussi d'agilité, hein, c'est une voiture qui est moins lourde, qui la direction est plus vive, je te dirais aussi, le freinage est époustouflant, puis c'est un moteur, un 6 en ligne. Par contre, si tantôt on parlait de sonorité des moteurs, le V8 BMW aussi, c'est vraiment... c'est pas un V8 Mercedes, mais c'est un V8 qui a une sonorité américaine, un peu style Mustang, Challenger, Camaro, Corvette. Mais le 6 en ligne, de la série 4, par contre, c'est un beau son. C'est un son, par contre, qui a perdu un peu de brutalité, je te dirais, au fil des ans. Il fut une époque où le moteur de BMW, d'une M3 ou d'une M4, me semble que c'était plus bruyant. Mais cela, ça fait le plaisir des voisins. Parce que le matin, très tôt, quand tu démarres ton véhicule, tu n'as même pas besoin de rincer le moteur, puis ça ronronne.
Ouais.
Des fois, c'est un peu
agaçant.
C'est un peu agaçant, surtout quand tu arrives tard à la maison ou quand tu pars tôt de la maison.
Parfait. Alors voilà pour la BMW. Est-ce qu'on parle maintenant de la Mazda MX-5? Là aussi, on parle d'un cabriolet quand même.
On parle d'un cabriolet.
Un
deux places. Une toute petite voiture. Hein. Puis cette année, cette voiture-là fête son 30e anniversaire. Donc, il y a une édition spéciale qui est de couleur orange. Cette voiture-là est limitée à 3000 unités. Cette édition-là, plutôt. Et parmi les autres caractéristiques, on va retrouver des jantes de Mack Race, des sièges Recaro, des amortisseurs Bedstein, puis un système audio Bose à 9 haut-parleurs. Parce que quand tu promènes un cabriolet, c'est intéressant d'avoir quand même un bon système audio, là, parce que c'est sûr que ça dérange le voisinage, comme on disait tantôt, mais il y a certains modèles cabriolets, je te dirais qu'au niveau de la sonorité, là, je parle peut-être plus des modèles anciens, ou des modèles d'entrée de gamme, des fois, la sonorité du système audio là, est moyen. C'est la même chose aussi au niveau du Bluetooth. Tu sais, des fois, on pense à la Miata. Quelqu'un qui roule avec le toit baissé, je te dirais, il va avoir plus de facilité à parler avec des interlocuteurs avec son système Bluetooth et son cellulaire qu'avec le toit en place.
Mm-hmm.
Le toit en place, c'est assez bruyant. Il y a une espèce de vrombissement. Bon, cela dit, bon, la génération actuelle, ce qui est intéressant, c'est le moteur 2 litres, moteur qui développe désormais 181 chevaux. Par rapport à l'an dernier, le moteur a fait un gain assez appréciable parce qu'auparavant, c'était 155 chevaux. Puis pour une voiture qui pèse à peu près 1060 kg, 181 chevaux, là, je te dirais, le rapport poids-puissance, c'est assez impressionnant. Et aussi, on a parlé de la Fiat 124 Spider il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui est une espèce de clone de la Mazda MX-5. C'est le même châssis. C'est le même intérieur. Par contre, la Fiat a sa propre carrosserie. La Mazda a sa propre carrosserie aussi de son côté. Et la mécanique, la Mazda, c'est une mécanique japonaise, alors que l'autre, c'est une mécanique italienne. Je te dirais, moi, il n'y a aucune comparaison au niveau de la transmission. L'avantage va à la Mazda. Le levier de transmission, pour enclencher les rapports, c'est extrêmement court. La course est courte. C'est extrêmement précis, une précision chirurgicale. C'est l'agrément de cette voiture-là, c'est la transmission, puis aussi le moteur qui est beaucoup plus performant qu'auparavant. Par contre, je te dirais, au niveau de l'espace intérieur, quand le toit est en place, Jacques, un grand gaillard comme toi, ça serait pas facile d'embarquer. Il faut vraiment se plier quasiment en quatre, après ça, se redéplier à l'intérieur du véhicule, parce que c'est tout petit.
Et rendu à un certain âge, c'est pas toujours facile de se redéplier.
Non. Sauf...
Redéplier, entre...
Ouais. Sauf que si la voiture dort, admettons, dans le garage, ben moi, je dirais aux gens, regardez toujours le toit rabattu. Comme ça, ben c'est facile, on rouvre la portière, puis on embarque facilement dans le véhicule.
Alors là aussi, j'imagine qu'on parle d'un véhicule deux saisons peut-être, ou trois saisons. Certainement pas un véhicule idéal pour l'hiver quand même.
Non, c'est un véhicule, je recommande qu'on, même tantôt les deux BMW qu'on a parlé, même si c'est dans le cas de la série 8, c'est une traction intégrale. Idéalement, c'est de serrer ces véhicules-là durant l'hiver pour pas les exposer. Ne serait-ce que les jantes, les roues, la carrosserie là au calcium, au nid de poule, et au risque de dérapage, tu peux frapper une bordure de trottoir, etc., etc.
Qu'est-ce que donne l'intégrale quand on ne peut pas s'en servir l'hiver?
Bien, l'intégrale, je te dirais que, surtout quand des voitures aussi puissantes, je te dirais, quand la route est détrempée, quand il n'y a plus, ou même quelqu'un peut s'en servir jusqu'en novembre, des fois, il peut avoir une petite glace fine, une espèce de petite glace, la glace noire, je te dirais que ça permet d'avoir un meilleur contrôle, ça évite les dérapages.
Quoique, je vais vous dire que la traction intégrale sur la glace, ça vaut ce que ça vaut.
Bien, n'importe quelle voiture, je te dirais, sur la glace...
Ben ça, je te dis.
C'est ça, il faut être prudent.
Dans la neige, ça aide, là, mais sur la glace, il n'y a pas de... D'après moi, il n'y a pas de solution miracle.
Bien, c'est sûr que dans une courbe, il faut ralentir, mais je te dirais, si, admettons, tu veux grimper une pente, c'est glacé, ou même si c'est mouillé...
Ça peut aider.
Ça peut aider avec la traction intégrale. Ça va aider grandement, je te dirais. Mm-hmm. Pour en revenir avec la Mazda, la MX-5, mais c'est sûr qu'en hiver, ce véhicule-là, faut le remiser. C'est sûr qu'on peut opter pour un toit rigide, rétractable, mais encore là, à moins de peut-être, si vous faites de la ville, vous circulez en ville, vous avez des bons pneus, puis vous n'allez pas dans... Quand il y a une tempête de neige, bien, vous restez tranquille à la maison, prenez le transport en commun. On peut se limiter à un seul véhicule. Mais je te dirais que la plupart des propriétaires de Mazda, c'est des gens qui ont un deuxième véhicule, puis au lieu de s'acheter une moto, par exemple, ou s'acheter un bateau, bien, ils vont vouloir profiter du plein air, si on veut, à coût abordable. Parce que c'est un véhicule qui commence à 32 000 $. Je te dirais, moi, le marché de l'occasion... Dans cette catégorie-là, c'est intéressant. Parce que c'est un véhicule... Habituellement, ces véhicules-là ont été bien entretenus. C'est un véhicule qui garde quand même bien sa valeur. Mais tu sais, moi, j'aurais pas de crainte d'acheter une Mazda MX-5 qui a 10 ans d'âge.
Mettons, 10 ans?
10 ans, mettons, je sais pas, moi, un modèle 99, un modèle 2000. Je te dirais, règle générale, ces véhicules-là ont été bien entretenus. Puis souvent, ils n'ont pas beaucoup de kilométrage, étant donné que c'est des véhicules qui roulent peut-être deux saisons, tu sais, parce que les gens vont peut-être les sortir au mois de mai puis vont les serrer au mois d'octobre.
Parfait. Alors voilà pour la Mazda. J'aimerais ça que tu me parles avant de... Parce que la pause s'en vient dans à peu près 5 minutes. Je vous rappelle que vous pourrez également parler à Jean-François après la prochaine pause. Un petit mot sur... je voulais dire que les camionnettes tout-terrain... où les gens, en tout cas, préfèrent maintenant sortir des sentiers battus, parce que les camionnettes tout-terrain, on en vend de plus en plus, là.
Oui, puis, tu sais, on vit dans un drôle de monde, parce qu'on parle des voitures électriques, on parle qu'on doit réduire la consommation, puis si tu me permets de faire une parenthèse, je voulais parler du Ford Edge, mais on en reparlera la semaine prochaine. Tu sais que Ford, hein, on se répète, là, ben, ils ont éliminé la Fiesta, la Focus, ils ont gardé la Fusion. Mais en éliminant la Fiesta puis la Focus, la voiture la plus abordable maintenant, c'est le Ford EcoSport. C'est sûr que le Ford EcoSport, c'est un véhicule, là. Tu sais, il n'y a plus de véhicule à 15, 16, 17, 18 000 $ chez Ford, là. Tu sais, quelqu'un qui veut s'acheter une voiture qui consomme peu de carburant, ça n'existe plus chez Ford. Bon, ça le dit, donc, moi, je te dis souvent qu'on parle des deux côtés de la bouche en même temps. On veut sauver l'environnement. On veut acheter des voitures électriques, promouvoir tout ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, les gens jettent de plus en plus de camionnettes tout-terrain. Quand je dis camionnettes tout-terrain, là, c'est des camionnettes dont ces camionnettes-là sont sont chaussées. Si on regarde, mettons, du côté de Ram, on parle du Ram 1500, le modèle Rebel. Vous avez le modèle Ram Power Wagon. Chez Ford, vous avez le F-150 Raptor. Puis là, ben, cette année, ils ont dévoilé pour 2020 le groupe Trimmer qui se rajoute sur le F-250, F-350, le Silverado Trail Boss, le Silverado, le Chevrolet. GMC Sierra, vous avez la T4, autant dans la version 1500 que la version 2500. Ces voitures-là, Jacques, la garde au sol est plus élevée. C'est des véhicules qui sont des camionnettes qui sont plus lourdes que les camionnettes conventionnelles. La garde au sol est plus haute, donc le CX, le coefficient d'aérodynamisme est plus haut, donc ça consomme plus. Souvent aussi, ces véhicules-là vont être chaussés de gros pneus à crampons. Vous allez avoir aussi des grosses motorisations. Vous allez avoir un différentiel qui va être plus robuste, qui va être avec un ratio plus élevé, qui fait en sorte que ça augmente la consommation. Cela dit, ces véhicules ont quand même le vent dans les voiles. Pourquoi? Parce que le prix de l'essence est pas cher. Puis les gens...
Jusqu'à preuve du contraire.
Ben, à 1,18, 1,19 encore cette semaine.
Mais on pourrait faire des reproches à Ford en se disant, bon, ils font peut-être pas leur effort de guerre pour fabriquer davantage de véhicules électriques, mais c'est une entreprise. Le but de l'exercice, c'est de faire de l'argent, c'est de plaire à la clientèle. Puis là, il faut croire que la clientèle aime les gros véhicules énergivores, puis tout ça. Et donc, on en vend de plus en plus. Alors, est-ce qu'on peut blâmer Ford de continuer à en fabriquer? Je sais pas. Là.
Raison,
tout est relatif.
C'est un système capitaliste. Ça fait travailler le monde. Ça fait travailler des travailleurs, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Là-dessus, t'as entièrement raison. Puis pourquoi qu'il y a un attrait pour les camionnettes tout-terrain, les camionnettes tout-terrain extrêmes, que je te dirais? Mais c'est un peu... C'est le même engouement. Les acheteurs de ce genre de véhicules-là, ils ont le même engouement qu'une certaine clientèle pour les voitures sport. Il y en a d'autres, c'est des voitures électriques qui ne jurent que par ça. Mm-hmm. Mais tu as une clientèle que c'est des gros 4x4.
En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour convaincre les gens de s'acheter des voitures électriques.
Comme quoi, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde.
Ouais. Bien, on va donc faire une pause et immédiatement après, si vous avez des questions pour Jean-François, ben, il sera là pour y répondre.
Pour parler en direct à Jacques Fabi de Montréal.
514-790-0224.
Sans frais.
1-800-667-5241.
Fabi, la nuit.